Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Bienvenue sur cette libre antenne du samedi soir. Pendant que certains sont en famille ou entre amis, vous êtes peut-être seul quelque part en train de vous repasser en boucle une situation qui vous fait du mal ou qui vous pose problème. En train de vous laisser submerger par des émotions qui vous engloutissent. Submergé par toutes ces larmes qui n'ont pas pu couler, tous ces mots qui n'ont pas été dits. Alors ne restez pas seul ce soir avec ces idées grises et toutes ces questions sans réponse. Je vous invite à vous libérer de tout cela, à libérer tout ce qui reste à l'intérieur et qui fait mal. Nous avons 2 heures à passer ensemble, 2 heures pendant lesquelles nous pouvons tout nous dire sans jugement, juste dans une écoute et un partage bienveillant. Pour prendre la parole et exprimer vos émotions, vos soucis, vos questionnements, un seul numéro de téléphone, le 3921. Amandine et Hassan sont prêts, ils attendent vos appels au standard d'Europe 1. Pour participer par SMS, je vous rappelle que vous faites le 7-39-21 en commençant toujours bien par le mot « nuit ». Des SMS bien sûr pour réagir aux témoignages que vous entendez à l'antenne, apporter une idée, une suggestion ou simplement un soutien ou un mot gentil, ça fait aussi du bien. Ce soir encore, rejoignez-moi dans cet espace chaleureux de confidence. Et comme je le dis souvent, prenez enfin votre bien en urgence plutôt que votre mal en patience. Enfin, vous saurez tout quand je vous aurai dit qu'à la réalisation ce soir, c'est Charles qui nous accompagne.
Pour joindre Sabine Marin, appelez le 3921.
50 centimes la minute.
Alors, puisqu'on se dit tout, c'est rare, mais ça arrive, peut-être les vacances scolaires, le retour. Sachez que c'est très calme ce soir au standard. Amandine et Hassan tournent en rond, ils attendent vos appels au 3921. Profitez-en si vous souhaitez venir me parler de vous, de votre vie, de vos joies, de vos peines. Vous savez qu'on peut tout se dire, on vous attend au 3921. Et en attendant, j'aimerais partager avec vous ce très joli texte qui s'appelle « Réapprendre ». Réapprendre à voir, quelle merveilleuse façon de se réinventer. Voir ne consiste pas à distinguer simplement les formes, les couleurs, les matières, les choses, les êtres, mais à regarder notre monde avec attention, avec curiosité, avec passion, avec un amour pur et désintéressé comme le font les enfants. Combien de fois sommes-nous passés à côté d'une expérience extraordinaire, n'y voyant que du banal, de l'ordinaire ? On passe toujours trop vite à côté d'une fleur, d'un arbre, d'un papillon ou de personnes que l'on aime. On oublie trop souvent de regarder autour de soi et on ne soulève plus les yeux au ciel pour voir plus grand que soi. Tout, absolument tout ce qui nous entoure sur cette terre mérite le même regard, la même présence, la même attention. Mais pour mériter la beauté de ce monde, il faut savoir l'accueillir. Pour l'accueillir, il faut rafraîchir notre regard et apprendre à voir avec amour. À voir dans un total abandon tout ce qui existe autour de nous. D'avoir d'autres yeux signifie donc de rafraîchir le regard que l'on porte sur soi, sur les autres, sur le monde qui nous entoure. Vous et moi, nous pouvons réintégrer notre manière de voir le monde. Voici quelques suggestions. Apprenons à voir les choses sans vouloir posséder, à regarder les gens sans les juger, à voir les événements sans les comparer, à regarder notre monde sans le diviser. Pour réinventer notre regard, chaque jour, il est essentiel de fermer les yeux quelques secondes pour rafraîchir notre vision du monde. Puis, avec un regard tout neuf, prendre le temps de contempler le visage de ceux qu'on aime et d'admirer la beauté du monde qui nous entoure. Ce simple exercice répété au quotidien est d'une force incroyable pour renouveler notre engagement envers les autres, envers la vie. Et lorsque nous traversons des périodes plus sombres, il nous faut aussi adoucir notre regard. C'est alors le moment de cultiver un regard empli de bienveillance, de douceur, de compassion envers nous-mêmes d'abord. S'observer sans se juger est un acte d'amour envers soi-même. Et c'est là le début d'une véritable transformation. Le seul véritable voyage, le seul bain de jouvence, ce ne serait pas d'aller vers de nouveaux paysages, mais d'avoir d'autres yeux. Et c'est signé Marcel Proust. bien écoutez, toujours pas d'appel au 3921, en tout cas pour être honnête, pas d'appel passable, c'est un peu ça le souci ce soir. Donc ce que je vous propose, c'est de partager avec vous régulièrement des textes que j'ai piochés de ci, de là, et puis un peu de musique en attendant d'avoir des gens qui viennent nous raconter leur vie sur cette antenne, sur cette libre antenne. J'ai fait un rêve l'autre jour, et j'ai rêvé que je me promenais dans la rue et que je croisais des tas de personnes, des inconnus. Ils avaient tous un petit enfant qui leur donnait la main et qui se cachait, qui avait l'air très inquiet. Quand je voyais un monsieur, je voyais un petit garçon à côté de lui. Quand je voyais une fille, une femme, je voyais une petite fille à côté d'elle. J'ai compris qu'en réalité, ce petit enfant à côté était l'enfant qu'ils avaient été et que c'était lui qui s'inquiétait, parce qu'il avait peur de ne pas y arriver. J'ai vu par exemple un homme se diriger vers le comptoir de la banque, mais le petit garçon était tellement petit qu'il ne voyait même pas l'hôtesse d'accueil. Il essayait de sauter sur ses pieds pour voir, mais il s'essoufflait, il n'y arrivait pas. Et il se disait jamais « je vais réussir à me faire entendre, puisqu'elle ne me voit pas ». Il avait oublié qu'il était devenu un adulte et que maintenant il pouvait parler et être vu. De la même manière, j'ai vu une femme qui avait beaucoup de mal à pousser son chariot parce que c'était la petite fille en elle qui était obligée de monter sur le chariot pour attraper les produits et les mettre dedans. Elle était fatiguée, essoufflée, elle avait l'impression que ça ne finirait jamais, que tout cela était tellement lourd, tellement fatigant. En réalité, c'est parce que c'était la petite fille en elle qui faisait toutes ses courses et qui se fatiguait. Parce qu'une petite fille est faite pour s'amuser, pour jouer à la poupée, pas pour faire des courses en vrai, pas pour faire des corvées d'adultes. Eh bien, souvent, nous avons cette réaction. Quand nous nous inquiétons, quand nous avons peur de ne pas y arriver, ou quand tout ne se passe pas comme nous l'aurions souhaité, nous avons l'impression d'être encore l'enfant que nous avons été. Et nous voyons ce que nous avons à réaliser comme une montagne impossible à déplacer, parce que nous voyons toujours l'adulte avec nos yeux d'enfant. Si vous regardiez l'enfant avec des yeux d'adulte, vous verriez que vous avez accumulé des tonnes de capacités, des tonnes de ressources qui vont vous permettre de déplacer toutes ces montagnes. Alors, que diriez-vous de voir maintenant votre vie différemment, de la voir avec vos yeux d'adulte ?
Pour joindre Sabine Marin, appelez le 3921.
50 centimes la minute.
Et c'est avec plaisir que j'accueille maintenant Bernadette. Bonsoir à vous Bernadette.
Bonsoir Sabine. Merci de m'accueillir à votre antenne avec et plaisir. Également à vos collègues.
On a pris le temps, mais je suis ravie de vous avoir. Alors dites-moi un petit peu, quelle est votre histoire de vie à vous Bernadette ?
Moi j'ai eu une vie très chaotique depuis mon enfance jusque maintenant. Je crois que plus j'avance et plus je me trouve en difficulté.
Ça a commencé comment, votre histoire de vie, quand vous parlez de votre enfance ?
Déjà, mon enfance, c'était horrible. Mon père était alcoolique. Mmh. Il n'y avait ni loi ni limite dans le sens où il faisait peur. Il prenait le fusil, il me coursait, moi et mon frère, pour nous faire peur. Il nous empêchait de manger le soir. Et surtout, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a fait subir de l'inceste. Je l'ai dit à ma mère. Ma mère, elle m'a dit « ne dis rien, il va faire de la prison ».
Elle avait peur, probablement, oui, c'est souvent ça.
Ouais. Et suite à ça, il y a eu une répétition. Alors, il y a eu aussi ma mère qui est devenue aveugle. J'ai eu la charge de la maison à 14 ans. Mon père, je m'excuse du terme, mais il est crevé fort heureusement parce que je l'aurais tué. Mmh. Et j'ai un frère jumeau bon, qui a une petite déficience mentale, donc qui est reconnu handicapé, mais qui est sous tutelle. Et la tutrice lui remonte... la tête pour lui dire surtout n'acceptez pas ce que votre sœur accepte le bilan de fin d'année, donc comme ça je ne sais pas s'il se fait avoir ou pas. Donc il ne me parle plus depuis 7 ans que j'ai 57 ans. Mmh. J'ai vécu pendant 6 mois en 2017 un harcèlement sexuel de la part d'un concierge d'immeuble où j'habitais. Mais c'était un harcèlement et comme je recevais beaucoup de courriers et qu'il y avait même ce concierge avait même mis sur tout, sur le courrier, les colis, enfin tout. Donc il me faisait du chantage en disant « Attention, t'ouvre pas la porte, demain, avis de passage ». C'était à chaque fois des menaces et puis toujours je passais pour une idiote. « Tu ne connais rien à l'amour, tu es une idiote », etc., etc. J'ai voulu sauter du 13e étage, il l'a vu. Bon, je me suis dit, il va peut-être comprendre, il va me laisser tranquille. Eh ben non, il ne m'a pas laissé tranquille. Je suis arrivée chez moi, J'étais au sixième étage. Mmh. Et là, je suis tombée. Et là, au lieu de me dire, bon, j'arrête, ça va mal se terminer, cette histoire, eh ben non, il a baissé son...
Il a continué.
Voilà.
Bernadette, juste, alors, juste, j'ai besoin de comprendre quelque chose dans votre histoire. Pardonnez-moi, oui. Est-ce qu'il y a une radio ou un haut-parleur allumé derrière vous?
Ah non, il n'y a rien.
Ah, parce que j'avais comme un écho. Cet inceste que vous avez subi de votre père, est-ce qu'une seule fois vous l'avez dit à quelqu'un?
Alors, depuis, 2000, depuis 2001, je suis suivie par un psychiatre, mmh. parce que quand j'ai eu la naissance de mon fils, tout m'est revenu comme un moment dans la figure.
Tout est remonté.
Parce que j'arrivais pas à lui faire de câlin. Il y avait quelque chose qui me disait, qui me bloquait, qui me disait « Non, non, touche pas ton gamin, tu fais de l'inceste. » Donc là, j'ai pas compris. Mmh. Et puis, suite à cela, je m'autorisais plus à accepter de donner de l'amour à un homme, puisque j'étais pas capable de donner de l'amour à mon fils. Et donc, le mariage s'est plus ou moins cassé. Et donc, j'ai divorcé. Mais mon ex-mari n'a jamais compris.
Oui, bien sûr.
Je lui avais dit ce qui s'était passé dans mon enfance, mais il n'a jamais compris. Et en plus, mon ex-mari m'a fait du chantage en disant « Si tu veux la garde de ton fils, tu refuses la part de la maison du mariage. » Et en même temps, il a profité que j'étais hospitalisée en milieu psychiatrique où je prenais des neuroleptiques pour me faire signer un document comme quoi j'avais perçu l'héritage en totalité de ma mère, qui était décédée pendant notre mariage. Donc, de ce fait, et là, il a pris le gamin. En fin de compte, le gamin est parti le 28 décembre 2000. Il est parti définitivement chez son père. Je ne l'ai jamais revu. Je lui ai fait des courriers de temps en temps. Mmh. Là, je viens d'être hospitalisée pour 3 mois. Je lui ai dit que j'étais rentrée.
Pour quelle raison, Bernadette?
Que j'étais hospitalisée?
Oui.
Parce que là, je n'en pouvais plus. Je viens de subir le dernier viol par le concierge de l'immeuble où j'habitais. Donc là, j'en peux plus parce que quand on voit que malgré 2420 SMS, des photos, des vidéos sordides, etc., des témoignages, la gendarmerie lui a donné raison. Alors ça, je comprends pas. Et ça, je n'accepte pas.
Sous quel prétexte?
Ah ben, soi-disant pour faute, absence d'éléments,
de preuves.
D'éléments insuffisamment, enfin, il n'y avait pas assez d'éléments. 2420 SMS, des témoignages, des vidéos, des photos. Alors là, si ce n'est pas suffisant, je ne sais pas ce qu'il faut d'autre.
Mais vous avez été mal défendue, non?
Je continue, hein, l'affaire n'est pas terminée. Mmh. Je continue. Oui. Mais bon, je sais que de toute façon, je n'aurai pas bien de cause. C'est un gendarme à la retraite, donc de toute façon, les flics vont se mettre pour lui et moi contre moi. Mmh. Donc j'aurai beaucoup de mal à me défendre dans cette affaire-là. Mais ce qui s'est trouvé, c'est qu'auparavant de cette histoire, j'ai subi 2 viols. Mais dans le département où j'habitais, on est très mal auditionné. J'ai été auditionnée une première fois par 2 femmes. Je pensais que les femmes allaient me comprendre. Et bien justement, c'est le contraire. Les femmes, elles m'auditionnaient en hurlant, en me disant des gros mots. Donc, du coup, j'ai pas voulu signer la plainte. Après, j'ai porté plainte auprès du procureur. Ça a été classé sans suite. Et l'histoire s'est recommencée en 2011 avec un adhérent qui avait fait appel à mes compétences en droit. Et pareil, je n'ai pas été entendue par la police. Et affaire classée sans suite, pour infraction insuffisamment caractérisée. Donc, ce qui ne veut rien dire du tout en droit,
oui,
surtout pour ce genre d'affaires.
Oui.
Et là, le dernier, là, ça a duré 6 mois, là, je n'en pouvais plus. Donc là, j'ai dû partir de l'endroit où j'habitais. Mais entre-temps, j'ai connu un ami qui m'a aidé à déménager, mais celui-là, lui, il n'a pas fait mieux. Il m'a cassé du matériel. Et puis, il m'a laissé tomber comme ça du jour au lendemain et il me trompait, mais je ne le savais pas. Bon. Mmh. Mais seulement, il m'a cassé du matériel et je n'ai pas récupéré toutes mes affaires. Et puis, il m'a implanté dans un village où il n'y a rien, mais je n'ai pas de véhicule. Donc, ça fait que je suis démunie de tout commerce où je me trouve. Je n'ai pas de véhicule. Et puis maintenant, je ne perçois plus que ma pension d'invalidité de 780 euros. Et avec ça, je dois payer un loyer de 300 euros, je dois payer une complémentaire santé de 100 euros, le forfait Internet 60 euros,
Pourquoi d'invalidité, Bernadette?
Parce que j'ai été reconnue invalide avec ma dépression. Ah. Et même, je vais avoir l'AH, là, parce que maintenant, ma réduction de temps de travail, elle a été réduite à zéro. Donc, je vais avoir le complément par la CAF entre le montant de la pension d'invalidité et l'AH. Mais l'AH, elle est de 850 euros. Donc, je ne vais pas avoir beaucoup. Entre 850 euros et 780, ça va me faire 100 et quelques, quoi. Et c'est encore pas fait. Je suis passée en commission la semaine dernière devant la MDPH et c'est la CAF qui m'appellera pour me dire si j'ai ce complément-là. Mais d'après le médecin, je ne peux plus travailler. Je suis à 80%, je peux obtenir l'AH, mais tout en gardant la pension d'invalidité, mais qui ne sera pas cumulée. Hein.
Oui.
Et suite à ça, ce qui est fortement déplorable et qui me fait surtout beaucoup de mal, c'est que j'ai aidé beaucoup de personnes. Je me suis dévouée vraiment corps et âme. Je me suis privée de manger pour aider beaucoup de personnes bénévolement puisque je n'avais pas le droit de travailler et j'avais créé ma propre association en tant que consultante juridique. J'ai fait gagner de l'argent à certaines personnes qui n'auraient sûrement pas eu ça si je n'avais pas été là pour les aider. Et aujourd'hui, je n'ai personne, personne ne m'appelle, personne ne s'occupe de mon cas. Tout le monde s'en fout, y compris la famille, tout le monde.
Et malheureusement, c'est très fréquent. Je ne sais pas si vous m'avez déjà entendu parler des fameuses blessures émotionnelles. Et
oui.
La blessure que vous rejouez dans votre vie inconsciemment, bien sûr, c'est la blessure d'humiliation.
Ouais.
Et quand on a été humilié, et Dieu sait que ça s'est répété beaucoup dans votre histoire, dans votre schéma de vie, aussi abandonné, oui. Mais quand on a été humilié, on a tendance à s'occuper énormément des autres pour avoir une espèce de compensation.
Oui, mais dire... alors aujourd'hui, encore aujourd'hui, j'ai reçu un coup de fil de la gendarmerie pour soi-disant des écritures, alors que j'avais un trésorier et qui faisait très bien son travail, pour des écritures qui auraient été passées sur mon compte alors que c'était du compte de l'association. Forcément, je demandais 35 euros d'adhésion aux personnes et je leur disais bien dans l'adhésion, attention, si votre dossier perdure, moi, il faut que j'achète des cartouches d'encre à 70 euros, il faut que j'achète du papier, il faut que j'achète des enveloppes, des timbres et pour faire pérenniser une association bénévole, loi 1901, but non lucratif, il faut participer aux frais. Mais ça, personne ne l'a entendu.
On s'égare un peu là. Pourquoi est-ce que vous m'appelez en fait ce soir?
C'est pour vous dire encore qu'aujourd'hui, j'ai encore été amenée à recevoir un coup de fil et je dois me présenter à une gendarmerie pour une histoire de je ne sais pas quoi, d'écriture, d'association. C'est toujours, toujours quelque chose qui m'arrive sur la tête, toujours.
Oui,
on dirait que tout le monde m'en veut et tout le monde veut essayer... Jusqu'à temps que je craque, quoi.
Parce que
j'ai déjà fait beaucoup de tentatives de suicide.
Mais vous êtes en ce moment hospitalisée, vous m'avez dit.
Non, là, je viens de revenir. J'ai été hospitalisée du 21 décembre au 19 mars.
Donc là, vous êtes rentrée. Est-ce que vous êtes sous traitement? Est-ce que vous êtes suivie par un psy?
J'ai un traitement très lourd, oui.
C'est-à-dire?
Je prends 8 licenciats.
Le nom, ça m'est égal, mais c'est antidépresseur, anxiolytique, c'est ça?
Anxiolytique, antidépresseur, et puis 2 comprimés pour dormir.
D'accord. Et est-ce que vous êtes suivie par un thérapeute?
Je suis suivie par un psychiatre que j'avais avant d'aller à la clinique de Murphy. Et puis le psychiatre que j'avais de la clinique continue à me voir.
D'accord, donc ça c'est très important. Ça serait intéressant de travailler avec lui sur cette blessure d'humiliation parce que vous tournez en boucle sur le même schéma qui se répète tout le temps.
Oui, puis en plus, j'arrive pas à avoir... maintenant, je peux plus avoir de rapport avec un homme. Je peux plus voir un homme. Si je vois un homme, c'est mon père, quoi.
Vous avez perdu toute confiance, oui.
Bah, de toute façon, à chaque fois... déjà, j'aime pas d'avoir des relations sexuelles. J'aime pas ça. Et puis bon, maintenant, j'ai un problème au niveau du vagin, le médecin m'a plutôt préconisé de pas trop en avoir. Mais les hommes vous disent « oui, j'ai compris, je serais sympa, essayez ça, puis c'est jamais ça, quoi. »
Et dites-moi, votre maman est toujours en vie?
Non.
Mais est-ce qu'avant sa mort, vous lui avez reparlé de cette histoire? Vous lui avez ouvert votre cœur là-dessus?
Elle s'en fichait totalement. Parce que quand je lui ai dit que... j'attendais mon fils, elle m'a dit « j'en ai rien à faire, de toute façon, ton fils, je ne le porterai jamais. »
Oui, il y a beaucoup, beaucoup de violence dans votre vie. Hein.
Donc,
violence morale, psychologique.
Oui. Alors surtout, parce que cette histoire, je l'ai déjà racontée à Caroline Dublanche, donc il y a peut-être certains auditeurs qui vont dire elle a déjà parlé, cette dame.
Sûrement, oui, il y en a voulais... qui réagissent comme ça, mais ce n'est pas grave, on a le droit de venir parler plusieurs fois à l'antenne. Si on en a besoin, on a le droit.
Mais c'est surtout pour vous dire que là, j'arrive à 57 ans et je m'aperçois que ben, il n'y a rien qui s'arrange. Au contraire, mon état de santé s'empire parce que maintenant, j'ai une fonte musculaire du côté droit. Donc, j'ai quand même, je ne peux plus marcher comme je veux, je ne peux plus porter. Et puis, on soupçonne un syndrome de la maladie de Parkinson. Mm-hmm. Mais ça, il faut que j'aille voir un neurologue. Mais bon, il faut donner 90 euros. Je n'ai pas 90 euros puisque je n'ai même pas 10 euros, je n'ai rien. Donc, je ne peux pas. J'ai des problèmes au niveau dentaire parce que bah, forcément, quand on ne mange pas, il y a tout qui part en vrille. Donc ça, c'est pareil. J'ai 8 couronnes à remettre, mais je ne peux pas. J'ai pas d'argent. Voilà. Donc, je bois. Simplement.
Bernadette, il y a Jade qui on vient d'envoyer un message, un SMS pour vous avec deux questions intéressantes. Elle demande si vous avez pris contact avec l'association qui s'appelle le Collectif Féministe contre le Viol.
Non, ça, non. Le Collectif
Féministe contre le Viol, c'est une association qui pourrait vous soutenir et vous aider.
Oui.
Et deuxième question, est-ce que vous êtes en lien avec une assistante sociale?
Alors oui, mais l'assistante sociale, elle m'a répondu, je vous ai déjà fait une aide l'an dernier, donc il n'y a plus d'argent dans les caisses, voilà. Non. Et comme elle sait que je sais très bien me débrouiller pour constituer un dossier, elle me dit non. Apparemment, ça la chagrine pas.
Mais là, faut pas vous laisser faire, Bernadette. Hein. Justement, si vous savez vous débrouiller, vous laissez pas faire.
Hein. Oui, mais comment les aides financières, c'est pas moi qui vais les débloquer. Hein. Faut que ce soit l'assistante sociale. Il faut aussi que, moi, je sais pas, que la famille se bouge. Mais comment? J'ai beau le dire à une cousine, mais bon. Ça la dérange pas. Alors qu'elle est propriétaire d'une maison, elle a un appartement en ville. En plus, malheureusement, elle a perdu son fils. Mais quand elle a perdu son fils, c'était suite à un accident de travail. Et sa belle-fille a quand même perçu, grâce à moi, une certaine somme d'argent. Et aujourd'hui, je n'ai aucun contact avec la famille. Personne ne prend des nouvelles de moi. Personne. Et mon fils, pendant les 3 mois que j'ai été hospitalisée récemment, ne m'a jamais contactée.
Oui.
Alors, je comprends pas qu'on puisse laisser des gens comme ça mourir de faim. Voilà, c'est... On laisse.
Malheureusement, il y a beaucoup d'ingratitude dans les gens autour de vous, de ce que j'entends là.
Bah, beaucoup de gens, oui, puis très odieux, parce que je n'ai jamais fait de mal à quelqu'un. J'ai toujours voulu aider. J'ai toujours donné le maximum de moi-même. Quand je faisais cette association-là, je ne prenais même pas le temps de manger le midi puisque de toute façon, c'était le téléphone qui sonnait toute l'après-midi. Et je faisais tous mes courriers la nuit. Et je prenais sur mes propres deniers pour payer les cartouches d'encre, le papier, les timbres. Et aujourd'hui, je ne vois plus personne. Et aujourd'hui, je suis même embêtée avec le commissariat.
Bernadette, si vous mettiez toute cette énergie que vous avez mise au service des autres, si vous la mettiez à votre propre service à partir de maintenant?
Mais comment ça? Puisque la gendarmerie, elle ne veut pas punir les gens qui me font du mal. Là, je sors d'un harcèlement sexuel qui a duré 6 mois, voire plus. Et en plus, j'ai tous les justificatifs. J'ai les messages, j'ai les photos, tout. Et non. Alors ça a été classé sans suite au niveau du TJ, du tribunal de grande instance.
Est-ce que vous avez un avocat là en ce moment?
Là, j'ai un avocat par ma protection juridique.
Voilà, c'est ce que
je me suis portée partie civile à l'encontre du juge d'instruction, de la cour d'appel, mais personne ne répond. Bah oui, c'est un flic à la retraite, donc on n'y touchera pas. Il est bien protégé. Et je vous dirais même que ce flic qui était retraité et qui était donc concierge de l'immeuble où j'habitais, son employeur était un syndic d'immeuble. Et le syndic d'immeuble a trouvé le moyen, parce que j'avais beau leur dire que le concierge faisait des choses qui n'étaient pas du tout claires et que je leur ai envoyé des photos, eh bien c'est retombé à mon encontre. Parce que je suis maintenant surveillée par la, bon, je sais pas, par le tribunal pendant 3 ans. Là, franchement, je ne comprends pas. Ils ont soutenu quand même son employeur. Malgré, j'avais envoyé des photos, mais pas des photos avec son visage, des photos que, sans son visage. J'avais envoyé les messages au départ, mais ils ne comprenaient toujours pas. Donc là, j'ai fini par envoyer les photos. Eh bien, ils m'ont fait expertiser par un expert,
un psychiatre.
Donc le psychiatre, lui, il a mis ça sans suite, mais j'ai été pénalisée quand même. J'ai un rappel à la loi pendant 3 ans. Voilà. Et j'ai eu encore en plus une autre surprise. Le commissariat m'a envoyé voir un psychiatre pour le violeur en question. Et on a tout fait pour que je sois mise sous tutelle. Alors là, je me suis défendue. J'ai dit ça, je ne serai jamais sous tutelle.
Qui est on quand vous dites on a tout fait?
Ben, je pense que parce que la psychiatre, elle était allée faire une expertise à une mauvaise adresse. J'étais pas à la bonne adresse. Et en plus, l'expertise s'est passée dans son cabinet. Moi, j'ai demandé. Alors, je suis allée devant. J'ai déjà été auditionnée devant la cour d'appel. J'y suis allée toute seule, sans la tutrice. Parce que la tutrice est venue frapper à ma porte. J'ai dit, je ne vous recevrai pas. Mes neurones ne sont pas du tout altérés, bien au contraire. J'ai beaucoup de connaissances en droit, donc de toute façon, vous ne me verrez pas. J'irai à l'audition de la cour d'appel, j'y suis allée toute seule, sans avocat, sans la tutrice. Le juge m'a appelée, je lui ai apporté tous mes diplômes de droit, je lui ai dit tout ce que je savais faire, je lui ai expliqué tout en droit, et donc il a pris note. 8 jours après, j'étais reconvoquée au niveau du tribunal d'instance, alors que normalement c'est le contraire, c'est le tribunal d'instance, TJ, cour d'appel, j'y suis allée. Là aussi, je me suis présentée toute seule. J'ai fait valoir mes connaissances de droit, j'ai fait valoir ce que je devais faire valoir. Et après, il y a eu le délibéré. Je me suis présentée au délibéré. La secrétaire, elle m'a dit, vous pouvez pas. Ah, je suis désolée, j'ai tout à fait le droit et je suis venue lire le rapport parce qu'il y avait un petit article 1672 du nouveau code de procédure.
Bernadette, je suis perdue là dans ce que vous me racontez. Franchement, j'ai du mal à suivre. Ça part dans beaucoup de directions.
Si vous voulez, ce dernier viol qu'il y a eu, on a demandé, le commissariat qui était très bien avec cet auteur des faits, a dû demander à ce que je sois mise sous tutelle pour prouver que j'étais folle. Donc, la psychiatre qui était sur la liste des experts judiciaires au niveau de la justice, elle a été mandatée. J'ai dû aller me présenter à son cabinet. Alors, elle m'a coûté 5 minutes. Je lui ai parlé du triangle de Cartman. Elle a même pas relevé. Et elle m'a dit, au bout de 10 minutes, c'est fini. Et je suis allée lire son rapport d'expertise devant le juge. Elle avait dit que des mensonges. Elle avait dit qu'elle m'avait vue à une autre adresse qu'à son cabinet, que j'étais une femme dangereuse, alors que rien, je n'ai jamais touché qui que ce soit. Donc, elle n'avait fait que de mentir. Donc, on voyait bien que ça avait été plus ou moins... il y avait eu sûrement de la discussion avant.
Dépression, vous pensez?
Oui. Un gendarme, oui, bien sûr.
On a plusieurs messages qui arrivent pour vous, Bernadette. Nanou qui demande pourquoi vous ne vous adressez pas à la CAF.
Et
Laurence qui dit aussi, est-ce que vous pensez aux associations pour vous nourrir aussi comme la Croix-Rouge ou le Secours Populaire?
Oui, alors où je suis, il n'y a pas grand-chose. On vous donne, on va vous chercher 3 bouteilles d'eau et puis je sais pas quoi, 2 morceaux de pain, mais on ne pense pas qu'il faut vous acheter de la lessive et ci et ça. C'est pas la nourriture qui coûte le plus cher. C'est plutôt parce que j'ai des médicaments qui ne sont pas remboursables. Bon, il y a ça aussi. J'ai perdu beaucoup de vue, donc je n'ai plus qu'un dixième. Les verres, c'est pareil, j'ai une partie des verres à payer. Je ne peux pas tout payer.
Oui, Bernadette, dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous, là, moi, ce soir?
C'était surtout pour... j'espère qu'il y a des auditeurs qui vont entendre. Enfin, des auditeurs qui me connaissent, plus ou moins, qui vont reconnaître ma situation.
Oui.
Parce que...
Mais dans quel but? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous espérez là ce soir?
Ce que je voudrais bien, c'est que surtout que la gendarmerie m'écoute.
Oui.
Et que la gendarmerie, s'il y a un gendarme qui m'écoute là, mais qui m'explique pourquoi que quand on est retraité de la gendarmerie, pourquoi on n'est pas puni d'un viol? Pourquoi il alors que j'ai connu une personne qui pour un oui, enfin pour pas grand chose, il a fait de la prison. Alors là, je comprends pas. Faut qu'on m'explique. Alors parce qu'il est retraité de la gendarmerie, parce que il est concierge d'immeuble, donc il a le droit de me harceler pendant 6 mois, il a le droit de me prendre pour une idiote, il a le droit de me montrer des vidéos sordides, etc., etc. Donc la loi n'est pas la même pour tout le monde.
Oui, mais vous comprenez bien que personne ne peut intervenir là comme ça sur l'antenne pour parler d'un cas dont on n'a que votre version. C'est extrêmement compliqué. Je comprends hein, ce sentiment d'injustice.
La version, mais... j'ai les justificatifs quand même.
Je sais bien, mais qui voulez-vous qui téléphone pour prendre position comme ça?
Si un gendarme m'écoute, qui parle?
Oui, mais là, je ne pense pas que ça sera le cas.
Voilà. Et ça, de toute façon, maintenant, je ne fais plus confiance à personne. J'ai arrêté mon association, je l'ai mise en veille. Mais de toute façon, et j'espère que la roue va tourner pour tous ces gens-là. Mais bon, la roue, elle tourne tout doucement. Hein. Ça, j'y crois guère, parce que je m'aperçois que plus j'avance et plus... de toute façon, jusqu'au jour où je vais être expulsée, si je suis expulsée, de toute façon, je me suicide. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, je n'irai pas coucher dehors. Il ne sera pas question. Avec tout ce que j'ai fait dans ma vie, en plus, j'ai connu du harcèlement moral au travail pendant 13 ans. C'est bon, quoi. C'est bon. L'enfance, plus que très chaotique, c'était inadmissible de voir ça, interdiction de manger le soir.
Bernadette, vous voyez votre psy à quel rythme?
Je le vois tous les 3 semaines ou tous les 15 jours. Et là, je voulais me refaire et hospitaliser, mais bon, dans les contrats santé, il faut savoir qu'on a droit qu'à 90 jours.
Mais là, je pense que vous avez vraiment besoin d'aide. Vous ne pouvez pas rester comme ça.
Mais oui, mais m'adresser à qui?
À votre psychiatre? À votre médecin généraliste?
Oui.
À tout professionnel de santé compétent qui vous entoure maintenant?
Oui, parce que alors, je vais vous dire aussi, j'ai des médicaments. Bon, mais je me demande ce qu'il en faut, parce que je veux dormir la journée.
Oui, mais
pour
est-ce
pas
que,
avoir la sensation de faim.
Est-ce que ça vous convient vraiment ce traitement? Est-ce que c'est pas quelque chose qui est en train de vous chambouler un petit peu plus que ça ne devrait là?
Non, j'en ai besoin. Sinon, je vois bien que dès que je veux ralentir, ne serait-ce que d'un comprimé, j'ai des crises d'angoisse qui reviennent très vite. Et je ferai n'importe quoi.
Oui, mais
je me mets en danger. Et puis en plus, je suis agoraphobe. Je me mets en danger pour un oui, pour un non. Si je traverse la route, j'ai tellement peur que je ne regarde ni à gauche ni à droite.
Oui, moi je pense que vraiment vous devriez demander à être de nouveau hospitalisé. Quelque temps qu'on s'occupe de vous, qu'on prenne soin de vous. C'est ça dont vous avez besoin maintenant, en urgence.
Non, ben là, j'ai pris mes 90 jours. L'assurance, elle ne prendra pas en charge.
Dites pas non à tout, Bernadette. Essayez d'ouvrir des portes encore et encore. Faites-vous aider par votre psy. Vraiment, il est là pour ça.
Ce que j'aimerais bien, c'est que le gendarme en retraite parte en prison. Je ne veux pas d'argent, mais je veux qu'il parte en prison. C'est ça que je veux. Et ça me soulagerait.
Oui, j'ai bien compris, mais...
Mon père n'a pas été puni. Le deuxième n'a pas été puni. Le troisième non plus. Et encore celui-là. Et pourquoi? Parce que c'est un gendarme à la retraite, mais c'est pas possible ça.
Cette colère-là, ce serait bien que vous arriviez à travailler dessus en thérapie pour vous libérer de ça, parce que vous faites du mal avec ça.
Mais tant qu'ils ne seront pas punis, j'arriverai pas à faire le deuil de ça.
Mais votre père sera jamais puni, c'est trop tard.
Oh ben, mon père, il est crevé, et puis de toute façon, lui, je ne veux plus en entendre parler, c'est comme si je n'avais pas eu
mais
de père.
C'est lui qui est à l'origine de toutes ces blessures.
Ah oui, ça c'est sûr, parce que sinon j'aurais fait des câlins à mon gamin comme toute mère, je n'aurais sûrement pas perdu mon gamin, et je serais peut-être encore avec mon mari, oui, ça c'est vrai, parce que mon gamin, je ne l'ai pas vu depuis 18 ans, voilà.
Mais cette énergie-là qui est chez vous canalisée par la colère, il faut arriver à la faire sortir, Bernadette. Que cette énergie devienne quelque chose de positif pour vous et pas de destructeur comme c'est le cas en ce moment. Mais oui, je comprends, je la comprends cette colère, ô combien je la comprends. Mais le problème, c'est qu'elle
se... Quand on se retrouve sans rien pour manger...
C'est injuste.
Là, je dois déjà un loyer à ma propriétaire. Je vais recommencer le mois, parce que là, je n'ai que vers le 12 du mois de mai, la pension. Je recommence sur un découvert de 200 euros.
Bernadette,
je sais. Je ne vais encore pas pouvoir manger
du
mois de juin, du mois de mai.
Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que toute cette colère-là, elle se retourne contre vous. Et c'est ça, j'en bafouille. C'est ce cercle vicieux-là qu'il faut arrêter. Vous vous faites du mal avec cette colère-là.
Bah oui, monsieur V, il y a de quoi, parce que vous avez donné le tout de vous, même vos propres deniers pour aider les gens, et vous ne voyez pas le retour que vous avez, mais c'est pas possible. Je me dis, mais comment peut-on faire ça? Moi, je sais pas, ça ne me viendrait pas à l'idée. On me rendrait service, on me ferait gagner de l'argent.
Je sais bien,
je verrais une personne dans une situation comme ça, mais je sais pas, j'agirais tout de suite.
Vous avez vécu plein d'injustices, plein d'humiliations et plein de violences dans votre vie. Le problème, c'est que toute cette colère-là qui est en vous, elle est en train de vous détruire. C'est-à-dire que non seulement on vous a fait souffrir, mais vous vous faites souffrir vous-même aujourd'hui.
Oui, et ça, ma santé en prend un coup.
Et bien évidemment. Et ça, il faut que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, il faut vraiment, vraiment travailler avec un psychiatre. Et ce n'est pas une fois toutes les 3 semaines, c'est au moins toutes les semaines. Et c'est pour ça que je vous parle d'une hospitalisation. Avoir quelqu'un qui vous tienne la main et qui vienne vous aider à sortir cette colère-là. Vous apaiser, c'est la première étape essentielle pour aller plus loin. Vraiment.
D'accord.
Parce que tous ces gens qui vous ont fait du mal, ils ne méritent pas que vous continuiez, vous, à vous faire du mal. Au contraire. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, toute l'énergie que vous avez dépensée pour les autres, dépensez-la pour vous faire du bien maintenant, pour vous prendre soin de vous.
Ah oui, mais quand on n'a pas d'argent, qu'on n'a rien, qu'on est seul, c'est difficile.
C'est pour ça que votre psy peut vous aider là-dessus. Il a sûrement des circuits, des moyens de vous faire hospitaliser, de vous faire aider.
D'accord.
Hein ? D'accord ?
Merci Sabine.
Vous prenez soin de vous ?
Oui.
Merci. Je vous embrasse, Bernadette.
Merci. Au revoir Sabine.
Et c'est Jean-Claude dont je vais faire la connaissance maintenant. Bonsoir à vous Jean-Claude.
Bonsoir Sabine.
Alors juste une petite chose, comme il est 56 précisément, on va juste faire connaissance, oui. On fera une petite pause le temps des infos si vous le voulez bien. Et je vous récupérerai de l'autre côté du journal.
D'accord.
D'accord.
Alors, je suis auditeur d'Europe 1 depuis des années.
Ça c'est une très bonne idée.
Voilà.
Vous commencez très fort.
Oui. Et pour résumer les choses rapidement, ça fait 9 ans que je ne dors plus, depuis un accident routier avec un traumatisme crânien. Je ne sais pas si on a tout essayé, mais on a essayé pas mal de choses.
C'est-à-dire
somnifères, etc., hypnose, rien ne prend.
Mais vous avez essayé des choses pour retrouver le sommeil ou pour évacuer le traumatisme ?
Les deux.
En deux mots, c'était quoi cet accident? Qui était responsable?
L'employeur.
C'est-à-dire?
C'est un accident au travail, dans le cadre du travail, et le véhicule était en mauvais état.
Et c'est vous qui étiez... Vous étiez au volant?
Oui. J'ai fait une sortie de route assez spectaculaire. J'ai fait 2 loopings. Et la voiture a atterri dans un champ assez en contrebas de la route. C'était à flanc de colline. Oui. Et c'est pris en deux.
Et vous?
J'ai subi.
C'est-à-dire, vous en êtes sorti dans quel état?
Intègre, mais avec un traumatisme crânien qui n'a pas été détecté immédiatement.
Oui.
Et dans les années qui ont suivi, ça s'est aggravé, jusqu'à un arrêt endocrinien complet en 2015.
Ouais. Est-ce qu'il y a une suite juridique à cet accident?
C'est un peu tard maintenant.
Sur le moment, non, vous n'avez rien fait?
Si, il y a eu un dépôt de plainte.
Et alors?
Eh bien, j'attends toujours.
Voilà, je vous dis ça parce que rien que ça, ça peut être une bonne raison de perdre le sommeil.
Non, là, j'y pense plus trop, hein, ça. Ça fait quand même 9 ans.
Oui.
Là, c'est un peu chassé de ma mémoire, ça. Mais ça ne change rien. Le sommeil n'est pas là. Ça va mieux au niveau santé. Il y a des hauts, des bas. Mais le sommeil ne bouge pas. C'est à peu près 2 heures par jour.
Comment ça, par jour, c'est-à-dire?
Dans la journée, sur 24 heures. Je ne sais pas comment je fais.
Oui, c'est ce que j'allais vous demander, moi non plus, je ne sais pas comment vous tenez.
Je ne sais pas. Je dois avoir des périodes de micro-sommeil sans m'en apercevoir.
Oui, probablement, parce que le corps a besoin de ça.
Mais il m'arrive de faire des nuits blanches complètes. la journée qui suit aussi. Enfin, blanche réveillée. Et puis en fin de journée.
Et là, vous vous écroulez quand le... c'est presque un...
Ah oui.
C'est presque un coma, j'imagine, à ce moment-là.
Oui, voilà, tout à fait. Ça. Là, pendant une heure ou deux, vous pouvez me secouer dans tous les sens, il ne se passe rien. Je puis enfin.
Bon, Jean-Claude, alors ne vous endormez pas. Comme je vous avais dit, on fait une petite pause de temps des infos et je vous récupère juste après, d'accord? À tout de suite.
Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Passer ensemble sur cette libre antenne, n'hésitez pas à continuer à nous appeler pour prendre la parole tout au long de l'émission. Vous faites le 3921 et vous tomberez sur Amandine ou sur Hassan qui sont prêts à vous accueillir. Je vous rappelle aussi que comme chaque soir, vous pouvez participer à l'émission par SMS en tapant le 73921 et en pensant bien à commencer par le menu des SMS très nombreux qui sont arrivés notamment pour Bernadette et je vous en remercie. 3921 donc par téléphone, 73921 par SMS et puis toujours les mails aussi si vous souhaitez interagir avec nous, libreantenne@europe1.fr.
Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Jean-Claude, vous êtes toujours là ?
Toujours.
On va reprendre notre conversation. Donc, vous me disiez tout à l'heure qu'il y a 9 ans, vous avez eu un accident assez grave de voiture.
Oui, spectaculaire, on va dire.
Pas spectaculaire, oui. Mais en tout cas, ça a été un choc psychologique et un traumatisme crânien.
Voilà.
Est-ce que vous avez des séquelles purement physiques, médicales de ce traumatisme ?
Oui.
C'est-à-dire ?
Alors, deux tassements de vertèbres.
Oui.
Au niveau visuel, une baisse de champ visuel, assez conséquente. La thyroïde qui était arrêtée, les surrénales également. Donc tout ça, ça vient de l'hypophyse qui est en vrac. Apparemment, là, ces derniers temps, ça reprend. Et au scanner, quand on passe, quand je passe au scanner cérébral, il y a la trace de l'impact.
Quand vous dites ça reprend, est-ce qu'il y a eu un facteur déclenchant récemment ? Un stress
non.
ou quelque
du
chose
repos. Dernièrement, non, du repos surtout. Du repos.
D'accord. Et donc, depuis 9 ans, depuis cet accident-là, vous n'arrivez plus à dormir ?
Ah oui, globalement, oui.
Donc, vous commenciez à me dire que tout à l'heure, qu'en fait, vous teniez jusqu'à l'écroulement.
Voilà.
Et quand vous vous écroulez, vous dormez 2 heures à peu près.
Oui, c'est ça.
Et après, vous vous réveillez.
Oui.
Donc, qu'est-ce que vous avez essayé ? Vous avez tout à l'heure commencé à me dire que vous avez essayé des somnifères classiques.
Oui.
Ça marche pas ?
Non.
Non ?
Non, ça marche tant que j'y suis pas habitué. Et à partir du moment où j'y suis habitué, ça marche plus.
Et vous mettez combien de temps vous habituer ?
Oh, ça peut être rapide, ça peut être un mois.
Donc vous dormez quand même pendant un petit mois, quoi ?
Oui, mais sauf que là, j'ai pratiquement tout essayé. Donc,
vous avez changé de molécules, changé de médicaments plusieurs fois ?
Voilà. Oui. En plus, la panoplie s'est réduite. L'assurance maladie en a supprimé quelques-uns. Donc, il n'y a plus grand-chose.
Vous m'avez dit que l'hypnose, ça n'a pas fonctionné non plus ?
Ah non.
Est-ce que vous avez pratiqué, après cet accident, un peu de MDR ?
Et non.
Non plus.
Non, parce qu'il y a quelque chose qui empêche. J'ai un problème de champ visuel. J'ai cet accident. Et comme le MDR est basé sur la rotation des yeux.
Oui, tout à fait. Oui.
Voilà. C'est pas efficace, quoi.
Oui, c'est
les
c'est
yeux ne sont pas à 100% opérationnels.
Oui, comme ça devrait.
Voilà. Alors,
j'imagine que vous êtes quand même suivi par un médecin. Qu'est-ce qu'il en dit ?
Ah oui, il en dit que dernièrement, vu mes dernières analyses, ça va mieux.
Oui, mais pour ce problème de sommeil qui est quand même extrême, c'est quand même un cas rare, j'imagine.
Il n'a pas de solution. Je vois un spécialiste au mois de juillet.
Alors, c'est ce que j'allais vous dire. Marie nous a envoyé un SMS et j'allais vous en parler en même temps qu'elle. Il y a des cliniques du sommeil.
Oui. Et c'était prévu que j'y aille. il y a déjà pas mal de temps.
Mmh.
Et là-bas, ils ont commencé par m'interroger sur le planning des heures dormies, pas dormies. C'est laborieux.
Bah, c'est vite fait chez vous. Il n'y a
rien. Comment ?
C'est vite fait chez vous, puisqu'il n'y a pas d'heure de
sommeil.
Oui.
Ça me fait rire, mais c'est ce que je leur ai dit.
Bah oui, c'est ça.
Il n'y a pas grand chose à compter.
Et c'est tout, ça s'est arrêté là ?
Voilà.
Non, mais c'est pas sérieux, là, ce que vous me dites. C'est pas une...
Bah, c'est eux qui ne sont pas très sérieux.
C'était une clinique du sommeil ?
Oui, à l'hôpital, en fait.
Et là, vous avez rendez-vous où, alors, dans quelques temps ?
Dans un autre hôpital.
Oui. Parce que là, on est quand même sur un cas extrêmement pointu, un problème problématique assez particulière. Et je pense qu'il faut vraiment des gens qui soient spécialisés dans ces problèmes de sommeil.
Ben, je crois aussi, mais je suis dans une région, les spécialistes, on les compte sur les doigts de la main.
Parce que là, Marie nous parle d'une clinique du sommeil. Oui, mais elle ne donne pas laquelle. Elle parle d'un hôpital, effectivement. Oui, c'est, peut-être vous êtes mal tombée avec cette première expérience, mais je pense qu'il existe des cliniques du sommeil et des spécialistes qui sont quand même compétents dans ce domaine. Parce que chez vous, le problème, c'est de savoir, est-ce qu'il y a un traumatisme psychologique, un blocage quelque part suite à l'accident, ou est-ce qu'il y a quelque chose de mécanique et qui fait que dans votre cerveau, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans le rythme normal du sommeil ?
Je pense que les deux.
Les deux, mon capitaine, ouais, c'est ça.
Oui. Au niveau traumatisme, le fonctionnement hormonal, endocrino, n'a pas été fait correctement. J'ai été hospitalisé en 2013 en endocrinologie. Ils sont arrivés à un diagnostic inverse de la réalité.
Ah.
Donc ça a été du temps perdu et du n'importe quoi. Et au niveau psy, pour les psy, je suis normal. Pas tout en mieux.
Mais attends, oui, il ne s'agit pas de ne pas être normal, mais je pense qu'il y a quand même un sacré traumatisme. Ce n'est pas rien l'accident que vous avez vécu. Il y a ça, et la première chose que vous avez mentionnée quand même, c'était la faute de votre employeur.
Oui, ça, je ne l'ai toujours pas avalé.
Voilà, on y arrive directement, évidemment.
Ah oui.
Voilà.
C'était des conséquences, enfin, je vais dire des circonstances assez particulières. Je peux vous en parler, mais bon.
Bah oui, justement.
C'est une voiture qui n'était pas très, très bien entretenue. Et 6 mois avant l'accident, je m'en suis servi sur l'autoroute et le volant bloqué en ligne droite. L'assistance de direction se bloquait.
Ah, c'est
il y avait un problème.
Ça.
Il y avait un problème de pompe hydraulique ou quelque chose comme ça. Le moteur de la direction assistée ronflait énormément. Ma parade plancher, je l'avais signalé. Et en 6 mois, rien n'a été fait. Et 6 mois plus tard, je suis retombé toujours sur cette même voiture. C'est un utilitaire. Hein. Et passé un passage à niveau quelques kilomètres plus loin, elle s'est mise en travers sur la route. Je n'ai pas pu rattraper la trajectoire. Donc j'ai fait des embardées gauche, droite, pour essayer de maîtriser, mais impossible. Et à gauche de la chaussée, c'était du rocher. Et à droite, le vide. Donc, en gros, j'avais le choix entre taper dans les rochers ou aller dans le trou.
Oui.
Bon, j'ai préféré le trou, ne sachant pas où il va. Parce que les rochers, c'est bon, c'est dur.
Et surtout, j'imagine qu'à cette seconde précise, vous avez compris qu'il n'avait rien fait sur la voiture. Il n'avait pas du tout réparé la voiture.
Ah ben, il y a eu une enquête.
Non mais oui, mais c'est à ce moment-là que vous l'avez compris, vous.
Ah bah oui. En fait, la direction se transformait en un gros vérin qui n'avait plus de maîtrise. De frein non plus. En fait, j'avais plus d'adhérence. Et en fait, la voiture était sur deux roues, pratiquement. Comme une moto ou en wheeling. C'était un peu pénible.
Oui.
Et quand je suis sorti de route pour descendre la colline, j'ai fait deux soleils, enfin des loopings. J'ai écrasé un arbre en passant. Et arrivé en bas, la voiture a fait un tonneau latéral et s'est posée sur ses quatre roues. Et j'étais bien tassé dedans.
Oui. Et vous savez, quand vous me racontez ça, Jean-Claude, j'ai comme l'image de quelqu'un qui, depuis, est en espèce d'hypervigilance.
Ben, c'est un peu ça.
Eh oui.
C'est un peu ça. Enfin, je ne m'en plains pas.
Ben, si.
Je voudrais bien dormir un peu quand même.
Ben oui, bien sûr. C'est pour ça que je vous dis, sur le côté purement médical, là, je pense qu'il faut effectivement creuser, voir s'il y a des blocages physiques. Mais sur le côté psychologique, ça m'apparaît comme une évidence, comme vous me l'avez dit spontanément, je ne l'ai pas digéré.
Ah non.
Parce que c'est profondément injuste d'avoir signalé à son employeur un problème aussi grave et qu'il mette votre vie en danger 6 mois après en n'ayant pas levé le petit doigt, c'est juste inacceptable.
Ben oui, mais le souci, c'est que j'étais un peu inhabitué à ce genre de choses. Parce que le non-entretien des véhicules, c'était un peu monnaie courante.
Oui, sauf que là, les conséquences pour vous sont vraiment graves, quoi.
Ben oui. En plus, j'étais justement habitué à ce genre de choses. Et là, j'ai été pris par surprise.
Est-ce qu'il n'y a pas chez vous aussi une petite part, peut-être une partie de vous qui se dit, mais zut, je le savais, j'aurais pas dû la prendre, cette voiture-là, quoi.
Non, je le savais pas, parce que je pensais que, comme on n'entendait plus, enfin, j'entendais plus le bruit de pompe d'assistance de direction, je pensais que c'était réglé.
Vous aviez confiance ?
Oui.
Oui.
Oui, de toute façon, au bout de 6 mois, sans volant, elle serait pas allée bien loin, cette voiture. Et c'est encore retombé sur moi.
Et donc, pour vous, le problème était forcément réglé, quoi.
Oui.
Ouais.
Enfin, des fois, il faut vraiment insister quand même pour que les réparations soient faites. Et une autre fois, j'avais une autre voiture qui était un dérivé de berline, type commercial. Les pneus étaient usés à l'arrière.
C'est dramatique ce que vous êtes en train de nous dire, Jean-Claude. Ça veut dire que potentiellement, tous les jours, il y a des gens qui mettent leur vie en danger parce qu'un employeur ne s'occupe pas de son parc auto.
Ben voilà. Et je ne le savais pas. Normalement, ça s'use plus à l'avant qu'à l'arrière. Et là, c'était l'inverse. Et c'était un jour où il pleuvait bien, sur l'autoroute également. L'arrière-train a décollé. J'ai failli faire un tête-à-queue. Enfin, ça, je l'ai senti quand même dans le siège conducteur que l'arrière de la voiture ne tenait pas. Donc, j'ai levé le pied de l'accélérateur et ça s'est calmé, l'aquaplaning. En rentrant, j'ai regardé les témoins. À l'arrière, ils étaient largement usés. Je l'avais signalé aussi. Le responsable direct laissait faire. J'ai vu le N+1, N+2. Là, ça s'est fait, la réparation. Mais bon, il faut faire presque une copie en 3 exemplaires.
Est-ce que vous avez été indemnisé suite à cet accident ?
À la fois oui et non. C'est-à-dire que je suis en invalidité, mais toujours salarié. Mais normalement, l'employeur doit continuer à me payer jusqu'à la retraite. Hein. Parce qu'il est responsable.
Ah ben, il me semblerait que c'est la moindre des choses, ça c'est sûr.
Oui, il est responsable. L'assurance maladie est au courant.
Ouais.
C'est passé devant le conseil de l'ordre, cette chose-là. Tous les médecins de la région sont au courant.
Oui. Je suis en train de penser à ce que vous me disiez sur l'hypnose. J'imagine que vous avez essayé d'utiliser l'hypnose pour travailler sur le sommeil.
Oui.
Ouais.
En m'hypnotisant avec un fond musical.
Ah, vous avez fait ça tout seul ?
Oui, j'ai une radio avec prise USB, okay. MP3.
Non, ça ne s'appelle pas faire de l'hypnose, ça. C'est juste de la relaxation accompagnée.
Ouais.
Mais ce qui serait intéressant pour vous, c'est de travailler, puisque vous ne pouvez pas faire de MDR de manière efficace, c'est de travailler en hypnose sur cette hypervigilance. C'est comme si à l'intérieur de vous, depuis l'accident, il y a quelque chose qui s'était mis en alerte rouge permanente. Les yeux grands ouverts et en vigilance. Et donc, vous ne dormez plus. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler en hypnose. Mais quand je dis travailler, c'est avec un thérapeute.
Ah oui, mais il faut en trouver. Hein.
Oui, ça se trouve quand même.
Et bien, dans la région où je suis, c'est un peu rare. Hein.
Vous êtes dans quelle région ?
Limousin.
Près de quelle ville ? Quelle grande ville ?
Brive.
Pardon ?
Brive-la-Gaillarde. C'est la patrie de Caroline Dublanche.
Brive-la-Gaillarde, oui, c'est vrai.
Voilà. Et sur place, il n'y a pas grand monde. Hein. Je connais bien l'expert psychiatre de l'hôpital. Ça va bien, les relations avec lui, mais il est un peu sec sur le problème.
Bah, c'est pour ça que moi, je vous invite à trouver un hypnothérapeute, mais non pas pour travailler sur le sommeil, pour travailler sur cette espèce de blocage, comme si vous étiez en... Vous savez, ça, l'image que j'ai, c'est un petit peu comme un lapin dans les phares d'une voiture. C'est d'un seul coup, c'est...
Ouais.
Ah. Et du coup, vous êtes... Non, mais c'est vraiment ça, cette image-là. Et c'est comme si une partie de vous était restée bloquée à ce moment-là et que depuis, vous ne pouvez pas relâcher.
Ah, vous me fait penser que parfois j'ai des cauchemars.
Bah oui, comme par hasard.
Chose bizarre. En plus, j'ai le vertige, donc ça ne correspond pas du tout. Quand j'arrive à avoir ces cauchemars-là, c'est-à-dire déjà faut dormir, je me mets à voler, à me soulever du sol, et arrivé à une certaine hauteur, j'ai le vertige. Et j'arrive pas à redescendre. C'est plutôt le contraire, je monte, comme si c'était en ballon. Mmh. C'est très désagréable. Et au bout d'un moment où je suis trop haut, je me réveille.
Oui, on sent qu'il y a quand même un sacré état de post-traumatique hein, chez vous.
Ben, peut-être, oui.
Et ça, vraiment, il faut le travailler. Il faut vous libérer de ça. Je vous garantis pas que c'est faisable, mais il me semble qu'on pourrait quand même avoir de gros progrès. Un apaisement en travaillant sur cette partie qui est en alerte permanente, quoi.
D'accord. En plus, côté travail, à l'époque, la vigilance était, comment dirais-je, une compétence professionnelle, on va dire.
Oui, on sent que vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'être dans le contrôle et dans l'attention.
Oui, je suis informaticien, donc il faut être...
Vigilant,
oui. Oui, il faut être particulièrement réveillé. Mais après l'accident, ça a été le gros dérapage. Hein. Je ne tenais plus.
Il faut être particulièrement réveillé, tiens, c'est intéressant comme terme.
Oui, quand il y a des bugs, des choses comme ça, assez fins à diagnostiquer, faut avoir les yeux en face des trous.
Il y a Farfala qui envoie un petit message en disant qu'il existe de l'EMDR avec du tapping. Alors, c'est pas tout à fait ça, c'est ce qu'on appelle l'EFT.
D'accord.
Est-ce que ça, effectivement, j'ai pas pensé ce soir, pourtant d'habitude j'en parle assez fréquemment. L'EFT, c'est une technique de libération émotionnelle par des petits mouvements, de tapping, effectivement. C'est le thérapeute ou vous-même qui tapez à des endroits précis, avec différentes techniques, et qui permettent aussi de libérer des émotions coincées. Et ça, vous pouvez le faire même avec des soucis aux yeux.
D'accord.
Donc essayez de trouver un thérapeute. Pas mal d'hypnothérapeutes pratiquent aussi l'EFT, donc vous pourriez faire les deux.
Oui.
Mais une fois de plus, ne vous trompez pas de combat pour l'instant. Paradoxalement, ce n'est pas sur le sommeil qu'il faut travailler.
Oui.
C'est sur l'inverse, c'est sur l'état d'hypervigilance.
Ce qu'il y a, j'ai vu un spécialiste de la douleur qui a évoqué l'hypnose. Mmh. Et puis, il a abandonné l'hypnose, sachant que ça ne marchait pas.
Oui, alors c'est pas parce que
sur les médicaments.
Ça n'est pas parce que ça n'a pas marché avec lui que ça ne marche pas.
Qui n'était pas très bon d'ailleurs.
J'ai régulièrement la preuve de gens qui viennent me voir en me disant ça ne marche pas sur moi et au bout de 5 minutes ça marche très très bien. Donc ça c'est.
Bon, il faut que je vienne vous voir.
Non, je ne suis pas la seule. On est des centaines, des milliers en France à faire ça très très bien. C'est juste que quand j'entends dire ça ne marche pas, je me méfie terriblement de la personne qui dit que ça n'a pas marché, vous voyez.
Oui.
Donc ça, c'est pas une excuse. Je pense que vraiment vous pouvez trouver quelqu'un qui vous aide. Simplement travailler sur le bon côté du problème, pas sur le. Vous voyez, c'est pas la conséquence pour l'instant qui est intéressante, c'est la cause.
Je me rappelle, j'ai fait de la relaxation.
Oui.
À l'époque, ça remonte à 2012, ça. Chou blanc.
Mais oui, parce que ça sert à rien. Il y a une partie de vous qui ne peut pas, qui ne veut pas se relâcher. Elle est bloquée dans cette. Comme je vous disais, comme le lapin devant les phares de la voiture, elle est coincée,
oui,
cette partie-là.
Et toujours si vous... dans le contrôle, hein, toujours.
Et voilà. Donc si vous l'obligez à se relaxer, elle ne veut pas cette partie de vous. Donc il faut vraiment aller travailler en thérapie. Ce n'est pas juste de la relaxation, de la sophrologie ou de la méditation, ou comme vous dites, de l'hypnose enregistrée pour vous endormir, ça ne sert à rien. Ça ne résoudra pas la cause.
D'accord.
Et la cause, c'est vraiment un espèce d'état de choc, un traumatisme, doublé d'une grosse injustice en plus.
Ben oui.
Et oui, quand vous dites encore des années après, je l'ai pas digéré, je l'ai en travers du gosier.
Ben, la validité, je m'en serais passé quand même.
Ben, j'imagine bien.
On fait mieux sans.
J'imagine bien. Et puis, on sent derrière ça que c'est quand même un sujet extrêmement grave que vous soulevez. Hein.
Oui.
Ben oui.
Parce qu'il y a dans cette région, l'entretien des voitures, ça pose problème quand même. Même vous allez dans les garages automobiles, les voitures en vente d'occasion, les révisions ne sont pas faites. Hein.
Pourquoi dans cette région ? Quel rapport avec la région ?
Eh bien, l'entretien routier, c'est pas trop leur affaire aux gens, l'entretien des voitures. Il y a beaucoup de poubelles qui circulent.
Tiens, on a un message d'Odile qui nous dit... Suite à un accident, j'ai perdu le sommeil moi aussi. C'est un chien qui m'a appris à dormir avec sa présence à mes côtés.
Ah ben moi j'ai un chat.
J'allais vous dire, le chat est encore meilleur en somnifère que le chien.
Oui, fait de la ronronthérapie.
Exactement, mais c'est pareil, la ronronthérapie ça apaise une conséquence, mais ça ne va pas régler la cause.
C'est le chat qui s'endort, c'est
il
pas moi.
Il s'endort avant vous, c'est ça.
Voilà.
Et il râle parce que vous le réveillez en plus.
Ah non, non, il est très gentil, c'est un chartreux.
Ah oui, ils sont gentils, ils sont tout gentils.
Ah ouais, c'est un chat en culotte de velours.
Ah, c'est joli comme expression.
Voilà.
Ça fait sourire Amandine qui adore les chats aussi.
Bah oui, c'est un mistigri.
Mistigri. Bon, en tout cas, Jean-Claude, faites ça. Allez travailler non pas sur la conséquence, qui est le problème de sommeil, mais sur la cause.
Oui.
Essayez de faire de l'EFT et de l'hypnose pour vous libérer de cette hypervigilance. Et travaillez aussi sur ce blocage et ce sentiment d'injustice.
Ce qu'il y a pendant des années, ça a commencé, je me rappelle bien quand ça a commencé, c'est en novembre, le 11 novembre 2011, des crises de névralgie cervicale, de Arnold et du trijumeau. C'est horrible ça, au niveau douleur. Et ça m'a passé, ça fait pas un an. Mais ça se déclenche, on ne sait pas comment.
Mais ça aussi, quand vous aurez réparé la cause et que vous retrouverez un meilleur sommeil, le reste sera plus facile à gérer.
Ah, la cause aussi. Est connue.
Non, mais quand
les tassements, ça.
Non, j'ai bien compris, mais je parlais du problème de sommeil.
Oui.
Quand vous aurez réussi à travailler sur cet état d'hypervigilance et que vous apprendrez à relâcher et à dormir mieux, vous aurez moins de douleurs aussi.
Oui. Ça fait pourtant des années que je ne fais plus d'informatique. En fait, j'en fais sans en vouloir, parce que j'ai bien une machine, mais elle tombe jamais en panne. Donc, j'ai pas à faire le technicien. Et je m'en sers assez peu, finalement, les réseaux sociaux, tout ça, j'y vais pas. Ça sert pas à grand-chose.
Non, mais
je préfère écouter la radio.
Vous avez bien raison. Les douleurs dont vous parlez, elles sont liées à l'accident, c'est évident.
Oui, oui.
Ce que je vous dis, c'est que vous arriverez à mieux gérer ces douleurs-là quand vous aurez retrouvé un peu de sommeil.
D'accord, donc il faut que je trouve le spécialiste.
Ça serait une bonne idée, oui. Quitte à bouger un petit peu, aller un petit peu plus loin dans une grande ville pour trouver un bon hypno qui fasse de l'EFT aussi avec vous.
Je vois un neuropsy en juillet.
Oui, ça n'empêche pas, hein, c'est parallèle ça. C'est
je l'ai demandé.
L'un n'empêche pas l'autre. Attendez pas juillet, ça me paraît loin. Hein.
Parce qu'il y a l'assurance maladie, elle bloque un peu pour les déplacements. Elle se limite au CHU. Mais au CHU, il n'y a pas ça.
Bah, cherchez quand même, à part le bouche-à-oreille, demandez à des pharmaciens, à des médecins dans votre région. Ou sur Internet, tout simplement.
Oui, sur Google, oui. Mais les médecins, bon, ils partent à la retraite là, en ce moment sur Brive. Ça devient un peu problématique. Et ceux qui restent sont en surcharge.
Mais pour trouver
pas changer de médecin.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour trouver un hypnothérapeute qui fasse de l'EFT, vous le trouvez sur Internet.
Hein. D'accord.
Après, vous regardez les avis, vous regardez un peu son site.
Il y a un annuaire de ça.
Alors, il y a des annuaires, régulièrement on pose la question, il y a des annuaires sur les sites des grandes écoles qui forment à l'hypnose thérapeutique.
D'accord.
Et il y en a trois qui sont pour moi, il y en a plusieurs, je ne peux pas toutes les nommer, mais celles qui sont vraiment sérieuses, c'est l'ECH, c'est l'École Centrale d'Hypnose, qui répertorie tous ces thérapeutes sur la France. Il y a l'IFHE, l'Institut Français d'Hypnose Ericksonienne, et il y a l'ARCHE. Et ces trois écoles-là, ont des annuaires de tous les thérapeutes formés chez eux, certifiés, et qui sont dispatchés sur toute la France.
D'accord, bon, je prendrai des notes en réécoutant le podcast.
Petit 1, l'ECH, petit 2, l'IFHE, petit 3, l'ARCHE.
D'accord.
D'accord.
Bon.
Vous faites ça, et puis si vous arrivez à faire tout ça, j'aimerais bien que vous me rappeliez dans quelques temps pour me raconter comment ça évolue.
Oui,
hein,
ça
c'est intéressant.
Pas tout de suite.
Non, il faut se laisser un peu de temps, mais ça peut être un chemin intéressant.
D'accord.
Prenez bien soin de vous, Jean-Claude.
Oui.
Je vous embrasse.
Merci, bonsoir.
Merci de votre appel.
Bonsoir,
au revoir.
Sabine, merci.
Et j'accueille maintenant Jeanne-Marie. Bonsoir, Jeanne-Marie.
Bonsoir, Sabine.
Bienvenue.
Merci. Merci. Je voudrais juste, en commençant, donner un petit tuyau à Jean-Claude s'il n'est pas parti dormir.
J'aimerais bien que pour lui qu'il soit parti dormir, mais je crois pas.
Non, parce que je suis une grande insomniaque devant l'Éternel et j'ai trouvé une combine pour pas être complètement suquée le matin. Alors, j'ai un petit panaché de trois molécules, mais je ne les prends pas ni la moitié ni le quart. Je prends juste du bout des dents une miette microscopique de chaque cachet. Et alors, le cachet, j'ai un hypnotique, un tranquillisant et
Neuroleptique. Neuroleptique, d'accord.
Ouais. Neuroleptique, c'est pour relâcher les muscles.
Et vous prenez un mélange des trois?
Et oui, mais pas un mélange. C'est un peu pour tromper mon cerveau. Je clignote un petit bout infime de chaque cachet. Mmh. Donc, j'en ai pris aucun, finalement. Mais j'ai l'impression que j'ai pris les trois et je dors comme un bébé. Voilà.
Mais je pense, malheureusement, Jean-Claude a essayé beaucoup de choses. Il n'y a qu'une chose dont on n'a pas parlé avec lui, c'est la mélatonine.
Ah, j'ai essayé. Ouais, j'ai essayé. Moi, ça m'en sucre.
Alors, c'est une question de dosage, paraît-il. Il faut la doser plus. Quand elle est plus dosée, ça fonctionne mieux. Mais bon, je crois que pour Jean-Claude, le problème était un petit peu plus compliqué que ça. Ouais.
Bon, alors
enfin, bref, quoi qu'il en soit, je vous écoute, Marie-Jeanne. Jeanne-Marie,
merci,
pardon.
Sabine. Oui, c'est à peu près pareil. Alors, j'ai 74 ans. Jusqu'à là, je n'avais pas de soucis. Je me déplace très bien, tout ça. Mais depuis quelque temps, je commence à avoir des graves problèmes rhumatologiques.
Des problèmes de rhumatisme, on va dire.
Ouais, enfin bref, oui. Bon, alors aujourd'hui, par exemple, je me suis bloqué le pied droit, un genre d'entorse ou je ne sais quoi, de tendinite. Et alors, c'est très invalidant, on ne peut pas marcher, bon. Et j'ai des choses comme ça qui sont récurrentes, le mal de dos qui me bloque et tout ça. Alors voilà ma question. Quand on arrive à cet âge-là, j'ai su que à notre âge, on avait la mairie mettait à disposition des aides à la maison, quelque chose comme ça.
Aide ménagère.
Voilà. Aide ménagère ou aide à la personne. Enfin, il y a tellement de terminologie, je sais même pas du coup de quoi on parle. Mais moi, j'aurais besoin de quelqu'un qui me fasse le lit parce qu'il est trop lourd, je ne peux plus le retourner, ça c'est clair. Et l'aspirateur. Ce sont les deux choses dont j'aurais besoin, de retourner le lit une fois par mois ou deux fois par mois et l'aspirateur, pareil, tous les 15 jours. Et c'est tout. Alors, la mairie, je ne suis pas allée encore. Hein. J'y ai pensé ça parce que là, je suis bloquée avec mon pied. Elle va sûrement me dire, oui, vous avez droit à un crédit d'impôt. Mais oui, mais quand on ne paye pas d'impôt, quel genre de crédit d'impôt on peut avoir?
Je pense pas que ce soit un crédit d'impôt. Alors, je suis pas spécialiste de ce genre de choses, mais ouais. Je pense que c'est simplement vous avez droit à une aide ménagère, quelqu'un qui vient un certain nombre d'heures par semaine ou par mois.
Oui.
Et vous n'êtes pas obligé de vous déplacer pour ça. Vous pouvez les appeler à la mairie.
Oui.
Vous demandez le service d'aide sociale de votre mairie.
Oui.
Et ils vous diront ce à quoi vous avez droit, logiquement.
Oui, mais je crains que ce soit le coût du crédit d'impôt, que c'est pas gratuit, voilà, pour faire court, ça, c'est pas gratuit. Mais quand on touche une retraite de 1100 euros par mois et qu'on vit seul, je sais pas.
Ah, je pense que si c'est justifié médicalement, il doit y avoir des aides gratuites.
Ah oui, je peux avoir une attestation de mon médecin dans ce cas.
Bah, je pense, si vraiment vous êtes en invalidité, qu'il y a des choses que vous n'arrivez plus à faire, c'est pas un caprice de votre part, c'est quelque chose de réel.
Invalidité, le mot est trop fort parce que ce sont des malaises récurrents. Vous voyez, j'ai le pied bloqué aujourd'hui. Après-demain, il ne sera pas bloqué, il va se rebloquer. Enfin, c'est caprice.
Oui, vous avez vraiment besoin d'aide. Ça n'est pas juste un caprice.
Ah oui,
c'est vraiment
pour retourner mon matelas, par exemple. Là, je peux pas. Il est trop lourd. Mm-hmm. Je peux pas. Ouais.
Même si c'est ponctuel, c'est quand même une diminution de vos capacités physiques qui sont liées à l'âge et à ces problèmes d'arthrose, d'arthrite. T'as assez d'arthrite ou
d'arthrose, mais enfin bon, à 74 ans, beaucoup de personnes ne peuvent plus retourner leur matelas.
Bien sûr, c'est complètement, enfin, c'est très fréquent. Mais je pense que la meilleure solution, ne commencez pas à vous inquiéter avant d'avoir leur réponse. Parce que vous me dites, ils vont me dire que, mais vous ne savez pas ce qu'ils vont vous dire.
Je flippe un peu parce que je me dis, un C4, là, je suis au bord du bord de ma vieillesse. Ça commence comme ça. Puis si un jour, je ne peux plus bouger de chez moi, qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Ils vont me mettre en maison de retraite, je n'ai pas de sous. Qu'est-ce qu'ils font?
Jeanne-Marie,
des gens
vivez chaque jour déjà, l'un après l'autre.
Ah, oui.
Ne portez pas des fardeaux que vous ne porterez peut-être jamais ou dans très longtemps.
Merci. Merci Sabina. Ouais, j'ai compris. Bon, alors je vais les appeler. Si j'ai la bouche un peu pâteuse ce soir, c'est que j'avais déjà pris mes petits bouts de cachet avant que vous m'appeliez.
Mais bon. Ben, je vous trouve encore bien lucide parce que moi, si j'avale ça, je peux plus rien prononcer derrière.
Ouais, mais j'ai tellement peur qu'on me dise, mais madame, vous êtes en chaise roulante, mais moi je peux pas tourner mon matelas, vous voyez, je vais me tourner le dos, au lieu de tourner mon matelas, je vais mettre le doigt là, je vais avoir un grave
mais
problème.
Ne faites pas les questions-réponses, posez la question, vous verrez ce qu'on vous répond, moi je suis sûre qu'il y a des solutions.
Oui, oui, merci. Bon, ben, vous m'avez donné le courage d'en parler en tout cas.
Bon.
Donc, ce n'était qu'un entraînement ce soir avant que j'aille les voir.
Exactement, d'accord. Maintenant je vous ai boosté, vous allez dormir, bien dormir.
Merci Sabine.
Et dès lundi, vous
merci.
Pourrez aller passer au moins un coup de fil ou aller les voir pour vous faire aider.
Vous êtes un amour. Merci Sabine.
Je vous embrasse.
Bonne soirée.
Bonne
au
nuit
revoir,
à vous.
Sabine. Au revoir.
Au revoir. Il me reste le temps d'accueillir Monica. Bonsoir à vous Monica.
Bonsoir Sabine, merci.
Avec plaisir, bienvenue sur cette libre antenne.
Merci beaucoup.
Quelle est votre histoire de vie à vous alors ?
Alors Sabine, je vous explique. J'ai été mariée pendant 20 ans à peu près,
mm-hmm.
avec un monsieur avec lequel j'ai eu 3 enfants. Et la fin de cette relation a été très douloureuse parce qu'il y a eu beaucoup de trahison. Donc j'ai souffert énormément de ma séparation.
Trahison,
j'ai eu beaucoup de mal.
Vous a trompé avec d'autres femmes ?
Beaucoup, beaucoup de tromperies, mm-hmm. beaucoup d'autres femmes. Voilà, j'ai beaucoup souffert de cette relation. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour reprendre ma vie en main.
Mmh.
Et dans le cadre de mon travail, j'ai rencontré un garçon qui travaillait avec moi. Et je suis tombée follement amoureuse de cette personne. C'est un jeune homme qui est plus jeune que moi. Il a 5 ans de moins que moi. C'est quelqu'un qui n'a jamais une relation longue.
Mmh.
C'est quelqu'un qui travaille énormément. Donc, nous avons démarré une relation, mais qui était... Je dirais pas passionnel parce qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Passionnel, mais avec l'amour vraiment. Ça faisait longtemps que je ne ressentais pas ce que j'ai ressenti avec cette personne.
Ça faisait combien de temps que vous étiez séparée de votre mari ?
Alors, quand on a commencé à sortir ensemble, j'ai cohabité avec mon ex-mari, mais on n'avait plus de relation. Ça faisait presque 2 ans.
Oui.
Et lui, en fait, il a déclenché ma vraie séparation de corps avec mon ex-mari. Et ça faisait à peu près 3 mois qu'on était ensemble. Mon ex-mari, je l'avais dit, c'était clair qu'on resterait plus ensemble et tout. Et ça faisait 3 mois que j'ai sorti avec ce garçon. Et un jour, je pars en vacances, donc je rentre dans mon pays pour voir ma famille. Et quand je reviens de vacances, mon ex-mari m'annonce donc qu'il quitte le domicile conjugal. Et donc, du coup, je m'attendais à me retrouver avec mon copain et qu'on puisse se trouver chez moi. Donc, j'ai préparé ma maison et tout pour qu'il arrive, pour qu'il vienne.
Mm-hmm.
Et ce même week-end-là, il s'avère qu'il avait un événement, parce que c'est quelqu'un qui est dans le milieu artistique et qui travaille énormément. Il avait un événement. Il a été à cet événement-là et en fait, il m'a même pas calculé le fait que je me retrouve toute seule de la... Mon premier week-end toute seule, sans mes enfants, sans mon ex-mari, tout ça. Et j'attendais qu'il soit là avec moi.
Oui, vous pensez qu'il allait sauter sur l'occasion en plus.
Exactement.
Et, oui.
Et ça ne s'est pas du tout fait. En fait, il a été, donc il a sorti, il avait un rendez-vous pour le travail, certes. Mais il a été dans une soirée, il a rencontré une fille qui était dans notre entourage tous les deux. Cette fille, elle a pris plein de photos avec lui et puis elle a posté sur les réseaux sociaux.
Mais des photos dans quel style ?
Juste à côté, à
ah
côté
oui,
les deux, mais voilà.
Rien de provocateur.
Non, pas vraiment, mais pour moi, je sais que c'était provocateur. Je pense qu'elle a fait dans cette intention-là. Enfin, j'ai vu cette photo et pendant 5 minutes, j'étais tellement en colère après lui que quand il m'a appelé le soir pour me dire qu'il était rentré chez lui, j'ai dit « Bon, de toute façon, maintenant, t'es rentré chez toi. » Et je pense qu'il n'y a plus de raison qu'on continue cette relation. Ça ne m'intéresse pas une relation comme ça. Mais j'ai dit ça sur le coup de la colère.
Mais vous pensez
et finalement...
Pas vraiment, ouais.
Non, je ne le pensais pas parce que je l'aimais vraiment. Je pense que j'aurais pu supporter, dépasser ça. Et à ce jour-là, il n'a plus voulu revenir avec moi. Et j'ai souffert énormément parce que je ne comprenais pas.
Juste
cet
pour
homme
ça.
Qui me dit, juste pour ça. Je pense qu'il a pris peur. Il a pris peur. Donc, il n'a pas voulu continuer. Peut-être qu'il a pensé que j'étais trop impulsive. Je ne sais pas. Mais ce qui m'a troublée, c'est que c'était quelqu'un qui, quand on était ensemble, il me disait tout le temps qu'il m'aimait de tout son cœur. Et je peux vous assurer que je ressentais ça dans son regard. Vraiment, son amour, aucun homme ne m'avait jamais regardé de cette façon-là. Donc, pour moi, ce n'était pas possible qu'il ne m'aime pas.
Mmh.
Donc, ça a commencé une descente aux enfers parce qu'en fait, j'ai enchaîné deux relations qui m'ont fait beaucoup de mal.
Après lui ?
Et pendant, oui, avec lui, les 2 mois qui ont suivi, je n'ai pas réussi à me relever de mon lit. J'étais trop malheureuse. et j'avais du mal à m'occuper de mes enfants. J'avais pas de force pour travailler. Et je suis aussi dans un milieu artistique où j'ai besoin d'être bien disposée pour aller bosser et pour amener de la joie et tout ça, pour sourire. Et je n'arrivais pas à le faire. Donc, j'annulais tout ce que j'avais. Je passais 2 mois au lit. J'ai beaucoup souffert. Mais je remarquais qu'avec le temps, de temps en temps, il m'envoyait un message, il m'invitait pour aller boire un verre. Mais en fait, il ne voulait pas reprendre nos relations avec moi, mais je n'arrivais pas à comprendre. Et finalement, j'ai décidé en fait de le radier de ma vie pour pas qu'il me fasse souffrir. Pendant 2 ans, je l'ai coupé complètement de ma vie. Si je le croisais, je ne le regardais pas. C'est comme s'il n'existait pas.
Oui. Et lui n'assistait pas non plus.
Il ne revenait pas vers moi, non. Mais je savais que ça le faisait en quelque sorte souffrir. Et j'ai jamais réussi à oublier cette personne. J'ai toujours aimé dans mon cœur. Et au bout d'un moment, je me suis dit, écoute, c'est pas grave, tu vas toujours l'aimer dans ton cœur, mais tu ne seras pas avec lui parce qu'il n'est peut-être pas fait pour toi. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi, il y a quelques temps, je commençais à penser à ça de plus en plus fort. Et un jour, il m'aborde par téléphone, il me demande si je ne veux pas venir manger avec lui, qu'il voulait vraiment que j'aille manger avec lui. Donc j'ai accepté, j'ai discuté avec mes amis, je me suis dit bon, pourquoi pas, j'ai peut-être oublié cette nouvelle chance, parce que si j'arrivais pas à l'oublier, c'est peut-être lui le bon. Donc on s'est retrouvés, et le premier jour qu'on a été mangés ensemble, tout de suite, c'était le même amour de toujours.
À la flamme s'est rallumée tout de suite.
Mais direct, vraiment, j'ai rentré chez moi, j'ai vu ce jour-là que je l'aimerais toujours. Et on a commencé une relation, et ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble. Le problème, c'est que cette personne, quand elle est avec moi, elle est toujours tout amour. Et dès qu'il est avec moi, c'est quelqu'un qui travaille énormément. Il travaille, il a deux boulots qui sont complètement différents, mais c'est quelqu'un qui est au taf toute la journée. Il travaille 12 heures, après il se repose le lendemain, après le week-end il fait autre chose dans l'artistique. C'est quelqu'un qui ne s'arrête jamais.
Mais ça, c'était déjà le cas avant, parce que vous m'avez dit que c'était déjà le cas au départ. Vous le saviez, ça?
C'était déjà le cas avant, oui. Mm-hmm. Mais ce qui me dérange dans cette relation, c'est que quand il n'est pas avec moi, quand il est chez lui, quand il est au travail, je ne sais pas s'il m'aime. C'est un truc incroyable. Alors, je ne sais pas si c'est un problème qui vient de moi ou si ça vient de lui. Je trouve que quand il est distant, il part avec son amour. Non, et quand il revient tout plein d'amour.
Je ne suis pas sûre qu'il parte avec son amour. Je pense que vous êtes quelqu'un qui a besoin d'être rassuré beaucoup. Mm-hmm. Et que ça, il ne le fait pas à distance. On ne part pas avec son amour, mais on part avec une présence. Et c'est son absence qui vous fait du mal, plus que son... Il n'y a pas de manque d'amour dans ce que j'entends, là. C'est juste que comme vous êtes, vous êtes inquiète, probablement, parce que vous avez été trahie beaucoup, beaucoup, beaucoup par le premier.
Et même lui, il m'a déjà fait beaucoup souffrir, donc ça me fait peur aussi.
Qui ça, quand vous dites lui, vous parlez de qui?
Mais l'actuel, lui aussi, il m'a déjà fait souffrir sur notre première relation qu'on a eue il y a quelques temps. Quand cette relation elle était finie la première fois, j'ai énormément souffert.
Mais il vous a pas trompé à ce moment-là?
Non, il m'a jamais trompé. Ça, je n'ai pas peur qu'il me trompe.
Non, mais vous avez quand même besoin d'être rassuré tout le temps. Et ce qui vous a montré, lui dans cette relation, c'est qu'il a eu que la première fois que vous avez réagi de manière un peu excessive, peut-être à ses photos, il a pris peur parce que lui n'est pas en mesure de vous rassurer tout le temps. Peut-être parce qu'il ne fonctionne pas pareil, peut-être parce qu'il est plus jeune, qu'il est peut-être moins mature que vous, j'en sais rien, il a une autre histoire aussi. Mais je pense que ce qu'il vous a montré la première fois, c'est qu'il n'était pas capable de ça et que ça lui a probablement fait peur. Je pense qu'il y a beaucoup d'amour,
exactement,
effectivement, puisque la vie vous a réunis et que c'est reparti directement, donc ça veut dire que l'amour était toujours là. Mais vous reproduisez le même schéma, c'est-à-dire que dès qu'il n'est plus là pour vous tenir la main et pour vous dire « je t'aime » ou vous le montrer, vous êtes inquiète.
Oui, c'est ça. Et là maintenant, il y a un nouveau problème qui se pose, c'est que la semaine dernière, on a eu une grosse, grosse dispute, et en fait, il me dit qu'il pense que ma relation avec mon ex lui dérange, parce qu'il pense qu'on est trop proches, et il m'a dit des mots très durs, il me dit « je pense que tu as 2 hommes dans ta vie, et je ne sais pas si je pourrais supporter cette situation ». Et j'ai envie de les crier, mais heureusement que j'ai une bonne situation avec mon ex, parce que une bonne relation, parce que toi, t'es jamais là.
Qu'est-ce que vous appelez une bonne relation avec votre ex ?
Alors, mon ex, on se parle régulièrement par téléphone, mais parce que mon ex, j'ai dû faire un travail énorme dans ma tête pour ne pas l'en vouloir, pour oublier tout ce qu'il m'a fait.
De toute façon, quoi qu'il arrive, il reste le père de vos enfants, ça c'est sûr.
C'est ça. Et je l'aime, c'est incroyable, je l'aime, mais d'une autre façon. Je l'aime, s'il n'est pas bien, je ne suis pas bien. On a une liaison qui est forte. J'ai vécu quand même 22 ans de ma vie avec cette personne. Mm-hmm. Donc, je l'aimerais toujours, malgré tout ce qu'il m'a fait de mal. Je ne voudrais plus de lui comme un homme dans ma vie.
Oui.
Mais je l'aimerais toujours, je pense. C'est le père de mes enfants, C'est quelqu'un qu'on a grandi ensemble. Je l'ai rencontré, j'étais une jeune fille. C'est difficile d'enlever cette personne de ma vie comme ça. Et je préfère que ma relation avec lui se passe bien pour pas que mes enfants, ils en souffrent aussi, parce qu'ils ont déjà souffert de notre séparation. Ils étaient encore tout petits, les derniers. J'ai 3 enfants. Et le dernier, il avait 2 ans quand je me suis séparée.
Bah, si rien n'est ambigu, oui. C'est plutôt sain que ça se passe bien.
Mais lui, il ne voit pas de cette façon. Ça le dérange qu'il m'en exile, monte chez moi, qu'il vienne boire un café chez moi. Ça le dérange qu'il m'en exile, soit au courant. Et l'autre jour, il était en colère parce que j'ai demandé au père des enfants de venir les garder chez moi. Il m'a dit, mais pourquoi tu ne m'as pas demandé, je serais venue. Alors que je ne veux pas le déranger, c'est déjà quelqu'un qui travaille tellement, je ne vais pas lui demander de prendre la responsabilité des enfants.
En fait, il est un peu comme vous, il a besoin d'être rassuré aussi, ce monsieur. Vous êtes tous les deux dans une inquiétude qui, a priori, n'a pas lieu d'être, de ce que j'entends. Puisque vous l'aimez, il vous aime, il n'y a a priori pas de tromperie, et vous êtes tout le temps en train de vous inquiéter pour rien, et l'un et l'autre. Lui, il s'inquiète dès que vous êtes en contact avec votre ex-mari, et vous inquiétez dès qu'il n'est pas assez là.
C'est ça, tout à fait. Et ça me bouffe toute mon énergie, mon esprit. J'ai l'impression que s'il est plus là demain, que je ne pourrais pas continuer sans lui. Oui. Alors que j'avais fait une thérapie pendant 1 an, justement après cette relation.
J'allais vous poser la question. Les deux.
Ah si, j'ai fait une thérapie. Je vois qu'il y a un problème, que je dois aussi traiter des choses de mon enfance. Je pense que j'avais une très mauvaise relation avec mon père. Mon père ne m'a jamais aimée. Mon père, il m'a toujours dit que j'étais en fait la pierre dans ses chaussures.
Oui, vous avez une grosse blessure d'abandon là qui ressort. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que vous êtes en miroir avec votre ami. Il a la même blessure et les mêmes peurs et les mêmes demandes que vous.
Il a aussi une mauvaise relation avec son père.
Ben voilà.
Mais ce qui est difficile, c'est que quand il n'est pas là et que je lui parle de mes peurs, parce que j'avais choisi dans cette relation-là de vivre une relation complètement saine, alors qu'en ce moment, ce n'est pas du tout le cas. Je voulais vraiment qu'on soit amis, qu'on soit complices, qu'on respecte l'individualité de l'autre, le temps que l'autre a besoin de se dédier à soi-même. Voilà, je voulais qu'on soit comme ça. Mais c'est vrai que ça me perturbe beaucoup quand il n'est pas là, quand il est distant. Et du coup, ça me fait perdre le fil. Je ne sais pas pourquoi je réagis comme ça. Alors que j'ai fait cette thérapie, et quand il était parti, j'ai tellement souffert. J'ai fait 1 an de thérapie. Je pensais que j'avais compris, que je pourrais supporter ça à nouveau, mais je me rends compte que tous les mêmes problèmes
non,
ils reviennent.
J'ai l'impression que comprendre est une chose, mais avoir travaillé suffisamment pour vous libérer de ça en est une autre. Mm-hmm. Et que vous n'avez peut-être pas assez travaillé là-dessus.
Et vous voyez, quand je lui dis, par exemple, qu'il y a un problème, c'est parce que je suis très sensible à l'énergie. Et quand je l'envoie un mot, par exemple, je dis bonjour, mon amour, le matin, je suis quelqu'un de très, très câline. J'aime bien les mots doux et tout ça. Je pense que ça réchauffe le cœur de tout le monde. Tout le monde aime être aimé, je pense. Donc, je suis comme ça et j'aime bien lui envoyer un message. Je ne suis pas la femme qui le court après toute la journée. Hein. Je ne l'envoie pas des dizaines de SMS. Je respecte son intimité. Si je sais qu'il est au travail, je le laisse m'appeler d'abord. Je ne l'embête pas. Quand je le téléphone, je demande s'il est occupé, si je peux l'appeler. Je ne suis pas quelqu'un d'envahissante, je pense.
Vous respectez quand même un espace.
Oui, bien sûr, tout à fait. Mm-hmm. Et même si ça dépendait de moi, je l'appellerais toute la journée. Et le problème, c'est que quand je lui dis que je pense qu'il est distant, il me dit toujours non, ça va, tout va bien. Donc, il me fait toujours penser que moi, je vois des choses là où il n'y en a pas. Mais en ce moment, avec ce qui s'est passé la semaine dernière, qu'il m'a dit que je suis tout le temps avec mon ex-mari, qu'il est trop présent dans ma vie, qu'il ne sait pas s'il va supporter ça. J'ai compris en fait qu'effectivement, à chaque fois que je pensais qu'il y avait un problème et qu'il était froid et distant, effectivement, peut-être il y en avait un. Mais qu'il ne me le dit pas.
Ou peut-être vous le créez.
Peut-être je le crée.
On va réfléchir à tout ça. Monica, l'émission se termine. Ce que je vous propose, je ne vais pas vous laisser comme ça en suspens, c'est que si vous êtes disponible, on peut reprendre cette conversation demain soir, si vous le souhaitez.
Alors, ce que j'ai dit à l'antenne, c'est que le problème, c'est que demain soir, il sera avec moi. Et je ne pourrai pas parler.
Alors, et peut-être la semaine prochaine.
J'essaierai de vous appeler la semaine prochaine.
On se rappelle vendredi prochain, on essaie de continuer cette conversation.
Il y a 20 ans, j'avais appelé à l'émission. Et je vous ai dit, il y a 20 ans pour un autre problème. C'est super,
alors on peut attendre une semaine de plus.
Oui, il n'y a pas de souci.
J'aimerais bien poursuivre cette conversation avec vous dès qu'on pourra. Je vous embrasse, Monica.
Avec plaisir, moi aussi, merci.
Désolée, l'émission se termine, au revoir à vous.
Bonne soirée et bon week-end.
Merci, c'est fini pour ce soir. On se retrouve donc, si vous le voulez bien, demain soir à partir de 23h sur Europe 1 pour poursuivre nos échanges et nos dialogues. Merci, ce sera Monica. Merci à, à Jeanne-Marie, merci à Jean-Claude, merci à Bernadette qui sont venus parler de leur vie, de leurs expériences de vie. Et puis merci à vous tous qui avez participé par SMS. Je vous souhaite une bonne nuit sur Europe 1 et je vous quitte avec cette citation. Le bonheur ne dépend pas de ce qui nous manque, mais de la façon dont nous nous servons de ce que nous possédons. Passez une bonne nuit.